Maître Jean-Claude Katendé, bonjour.
Bonjour.
Les personnes condamnées pour l'assassinat de Laurent-Désiré Kabila sont graciées par le chef de l'État. Quelle est votre réaction?
Notre réaction, c'est une pleine satisfaction. Nous nous sommes battus durant plusieurs années pour obtenir cette libération. Aujourd'hui qu'elle est là, nous sommes satisfaits et nous en profitons pour féliciter le président Tshisekedi d'avoir osé là où tout le monde pensait qu'il n'allait pas agir.
Eddy Capen, de Nonolu Toula, Georges Leyta, 20 ans après, ils sont encore 23 en prison, alors que le tribunal militaire qui les a condamnés n'était pas convaincu lui-même de leur culpabilité. Pourquoi une telle injustice et pourquoi si longtemps?
Il faut comprendre que autour de l'assassinat de Laurent-Désiré Kabila, il y a plusieurs versions. Et l'une des versions met en cause l'ancien président Joseph Kabila. Et donc, il fallait très rapidement, pour balayer cette version, trouver rapidement les coupables que je qualifierais moi de boucs émissaires pour donner l'impression à tout le monde que on a trouvé les assassins de Laurent-Désiré Kabila. Là et que l'affaire était close. Et ces injustices ont été perpétrées tout simplement pour protéger l'ancien régime. Toutes les campagnes que nous avons faites pour interpeller l'ancien pouvoir par rapport à ce que les innocents étaient en prison, l'ancien pouvoir avait gardé la sourde oreille jusqu'à l'avènement de M. Félix Tshisekedi, qui a été attentif et il nous avait promis d'examiner les dossiers. Et aujourd'hui, il a donné gain de cause à ces dossiers.
Il y a 2 ans, après l'arrivée au pouvoir de Félix Tshisekedi, beaucoup attendaient cette grâce présidentielle. Pourquoi a-t-il fallu encore attendre 2 ans?
Je pense que le président de la République, je ne suis pas l'un de ses conseillers, mais je pense qu'il a la stratégie d'avancer par des petites victoires. Vous allez vous rappeler que l'année passée, quand Lazado a organisé 2 marches, le président de la République avait promis qu'il allait examiner les dossiers. Et donc, l'année dernière, au mois de juin, il avait accordé la grâce présidentielle à 5 personnes concernées par ces dossiers qui sont aujourd'hui en liberté. Et à la fin de l'année, il a accordé la grâce présidentielle à tout le monde. Cette stratégie d'avancer par des petites victoires me paraît être très intéressante pour la République démocratique du Congo que de frapper, de prendre la victoire en une seule fois avec des dégâts tout autour.
Cette grâce présidentielle tombe au moment de la rupture de la coalition CACH-FCC. Est-ce que c'est une simple coïncidence?
Je pense que la rupture entre le CACH et l'FCC a permis au président de la République de se passer de l'accord qui l'est lié à l'ancien président Kabila et lui a donné plus de marge de liberté. Et le président Tshisekedi a bien fait de réparer ces injustices. Et la décision qu'il a prise a été saluée par la majorité des Congolais. C'est vrai que les Congolais ne se satisfont pas seulement du fait qu'on libère Eddy Capen de ses amis, mais ils ont aussi les soucis de voir que le procès puisse reprendre pour que les véritables commanditaires et assassins de Laurent-Désiré Kabila soient présentés devant la justice, qu'ils soient entendus et condamnés. Je pense que c'est le deuxième combat que nous allons amorcer pour que le procès reprenne.
Alors, en effet, il y a des suspects qui sont en fuite à l'étranger. On pense notamment à Georges Mirindi et Bilal Héritier. Qu'est-ce que vous attendez du côté de la justice congolaise?
Je pense que aujourd'hui, le climat politique permet à chacun de pouvoir se défendre convenablement, contrairement à ce qui s'était passé à l'époque de la cour d'ordre militaire. Et si les personnes qui sont à l'extérieur estiment qu'elles sont innocentes, elles devront reprendre langue avec la justice congolaise pour venir éclairer et présenter leurs moyens de défense, parce qu'elles ne vont pas se condamner à l'exil éternellement. Et je pense que nous allons demander à la justice congolaise de reprendre ce procès conformément à la résolution de la Commission africaine des droits de l'homme et du peuple et de s'adresser à Georges Mirindi, héritier, de pouvoir venir se présenter. Et s'ils ne le font pas, il faut que la justice congolaise émette un mandat international pour avoir des facilités pour que ces messieurs, s'ils ne viennent pas de leur propre gré, qu'ils soient contraints à venir présenter leurs moyens de défense devant un juge impartial.
dont vous souhaitez un mandat d'arrêt international contre Bilal Héritier et Georges Mirindi.
Effectivement, dans les cas où ils ne coopéreraient pas. Mais comme ils se sont toujours présentés comme des innocents, je crois que ça va être une bonne opportunité pour eux de venir volontairement se présenter devant la justice.
Maître Jean-Claude Katende, avec l'Azado, vous luttez aussi pour la transparence des contrats miniers. Est-ce que vous avez obtenu enfin la publication de certains de ces contrats ?
Effectivement, nous luttons depuis plusieurs années pour la transparence des contrats miniers dans la mesure où nous estimons que le secteur minier est un secteur important en République démocratique du Congo qui peut générer des revenus. Et quand vous allez sur le site du cadastre minier ou sur le site du ministère des Mines, vous allez effectivement constater qu'il y a certains contrats qui ont été publiés. Mais il faut dire que pour nous, les contrats sous-entendraient aussi les annexes. Et le combat que nous menons aujourd'hui, c'est que les annexes de ces contrats soient aussi publiées. Mais il y en a quand même d'autres pour lesquels nous continuons à faire des efforts pour qu'ils soient publiés. De ce côté-là, la République démocratique du Congo a fourni des efforts, mais nous voulons arriver à une transparence totale.
Et après avoir obtenu la publication de certains de ces contrats, avez-vous découvert d'éventuels détournements de royalties qu'aurait dû toucher normalement l'État congolais ou des sociétés d'État congolaises ?
Effectivement, il y a dans ces contrats beaucoup d'anomalies qui touchent non seulement aux avantages que l'État congolais aurait dû empocher, mais il y a des pratiques qui vont dans le sens où on minore les avantages de l'État avec pour conséquence que les personnes qui négocient les contrats sont soudoyées, reçoivent des fonds de la part des partenaires pour en fait mettre l'État dans une position désavantageuse. Donc quand nous regardons par exemple les états financiers qui ont été publiés dernièrement des entreprises appartenant à l'État, il y a plusieurs pratiques qui font que l'État n'arrive pas à empocher, à générer effectivement ou à recevoir des fonds qui lui sont dus par les partenaires privés ou par les sociétés appartenant à l'État.
Et au vu de ces contrats publiés, où est allé cet argent détourné ? Vers des personnes privées, c'est ça ?
Pas seulement des personnes privées, mais aussi des fonctionnaires de l'État. Quand vous prenez, par exemple, pour la GECAMINE, sur les pas des portes qui sont versées à la GECAMINE, 50% reviennent au gouvernement national et 50% reviennent à la GECAMINE. Mais la GECAMINE ne rend jamais compte de la gestion de ces 50% des pas des portes. Ce qui laisse la porte ouverte à toutes les pratiques de corruption possibles. Ce qui laisse la porte ouverte à ce que certains hommes politiques bien placés puissent avoir une partie d'argent de ce que la GECAMINE empoche parce qu'elle ne rend pas compte de ce qu'elle reçoit des pas des portes. Ça, c'est un exemple qui a été documenté et qui est revenu dans beaucoup de rapports, non pas des ONG internationales, mais de litiers de la République démocratique du Congo.
Quel est le nombre de contrats miniers dont vous avez obtenu la publication ?
Bon, je pense qu'il y a plus de 20 contrats que la société civile a pu obtenir pour qu'ils soient publiés depuis que l'initiative de transparence des industries extractives est en œuvre en République démocratique du Congo. Et il faut dire que c'est particulièrement dans le cadre de cette initiative de transparence des industries extractives qu'on a pu obtenir beaucoup de contrats qu'on a pu obtenir la publication de beaucoup de contrats parce que tous les contrats qui ne sont pas publiés à la fin de chaque année sont repris dans ce rapport et l'État fait des efforts pour que les contrats qui sont réclamés, dont la publication est réclamée par l'ITIE, puissent effectivement être publiés.
C'est grâce donc à la pression de l'ITIE, l'initiative pour la transparence dans les industries extractives, et peut-être aussi grâce à la pression du FMI ?
Oui, là je pense que les FMI, surtout depuis l'avènement du président Tshisekedi, les FMI a joué un rôle très important dans le cadre de la transparence. D'autant plus que les FMI a imposé certaines conditionnalités dont par exemple le fonctionnement normal des litiers en République démocratique du Congo.
Alors vous avez obtenu la publication de quelques 20 contrats miniers, mais quel est le nombre d'autres contrats miniers dont vous espérez aujourd'hui la publication pour cette année 2021 ?
Je pense que selon les échanges qu'on a eus par rapport à cette question, il y a encore une dizaine de contrats qui doivent être publiés.
Maître Jean-Claude Katende, merci.